France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. C'est l'un des plus proches conseillers d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien, annonce sa démission. Mon départ correspond à une nouvelle étape dans mon engagement, déclare-t-il dans un entretien au magazine Le Point. Il précise que ce départ sera effectif fin mars, début avril, date de sortie de son livre. Ismaël Emelien assure qu'il n'y a aucun lien avec l'affaire Benalla dans laquelle il est impliqué, mais il était tout de même très proche d'Alexandre Benalla. Il est soupçonné d'avoir d'ailleurs réceptionné et médiatisé les images des violences contre les policiers le 1er mai dernier. Et l'affaire dite Benalla, encore avec ses précisions du site d'information Mediapart hier, Alexandre Benalla aurait bel et bien négocié un contrat pour assurer la sécurité de l'homme d'affaires russe, qui, quand il était encore à l'Elysée, un oligarque russe. Depuis son licenciement cet été, il a négocié et signé deux nouveaux contrats de sécurité pour un montant total de près d'1 million d'euros chacun. Pas une école, pas une classe sans des drapeaux français et européens. Voici l'objectif de l'amendement voté cette nuit par les députés. L'Assemblée nationale examine cette semaine le projet de loi pour une école de la confiance. Les paroles de l'hymne national devront aussi être affichées dans chaque salle, dans tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés sous contrat. Plus de 500 actes antisémites ont été recensés l'année dernière en France. C'est presque deux fois plus qu'en 2017. L'antisémitisme est un poison qui se répand, a estimé Christophe Castaner hier. Le ministre de l'Intérieur était à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. C'est là que l'arbre planté en la mémoire d'Ilan Halimi a été découvert scié hier matin. Ilan Halimi, je vous le rappelle, est ce jeune juif de 23 ans qui avait été mortellement blessé en 2006. Dans l'actualité de ce mardi matin, il y a aussi les frappes de la coalition internationale en Syrie. L'offensive contre le groupe État islamique continue à la frontière avec l'Irak. Hier, ces frappes ont fait 16 morts, 16 civils. Et puis un procès attendu s'ouvre aujourd'hui à Madrid, celui de 12 indépendantistes catalans, responsables politiques ou associatifs. Ils sont jugés pour avoir organisé une consultation illégale en octobre 2017. Il s'agissait du référendum d'autodétermination.
France Musique et France 3, partenaires des 26e victoires de la musique classique. Demain à 21h, à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, avec Lang Lang, Roberto Alagna, Alexandra Koujak, l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction de Julien Leroy. En direct sur France 3 et France Musique, présentation Leïla Kadour-Boudali et Judith Chen. France Musique, une radio de Radio France.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture et nous retrouvons Toufik Hakem pour une demi-heure de culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, merci de nous écouter tous les matins à la radio ou quand vous voulez en passant par le podcast. Une grande rétrospective consacrée à Victor Vasarely, le père de l'art optique, actuellement au musée Georges Pompidou, Beaubourg, permet de mieux appréhender l'œuvre de cet artiste du XXe siècle. Vasarely et ses combinaisons répétitives, géométriques, nettes et abstraites, Vasarely et ses lignes, ses ellipses flashy, ses ovales et carrés, tout un art au service de la logique, de la science, sont donc au centre de cette impressionnante exposition qui raconte aussi le Vasarely d'avant sa consécration dans les années 70 et le Vasarely d'après quand il a cessé d'être à la mode. Et tout ça bien sûr à travers ses peintures, ses sculptures, quelques intégrations architecturales, ses publicités, ses produits dérivés. Bienvenue donc dans le monde de Vasarely, le plus populaire des artistes méconnus, pour reprendre l'expression d'Hayley Edwards Dujardin, mon invité ce matin, qui est tout à la fois historienne de l'art, historienne de la mode et qui est auteur d'un livre consacré à l'artiste qui vient de sortir dans une nouvelle collection aux éditions du Chêne.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Près de 300 œuvres, peintures, maquettes, objets, documents, publicités pour explorer le continent Vasarely. C'est ce que propose donc le Centre Pompidou-Boubourg jusqu'au 6 mai avec cette grande rétrospective intitulée Victor Vasarely, le partage des formes. Bonjour à Hayley Edwards Dujardin.
Bonjour.
Il faut quand même rappeler que Vasarely a traversé le siècle, hein, puisqu'il est né en 1907 et qu'il est mort en 1996. Et tous les courants modernes du XXe siècle, on peut dire qu'il les a traversés.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant avec Vasarely, c'est que sa grande célébrité, sa grande popularité est finalement arrivée assez tard. Mais avant ça, il a étudié le Bauhaus, il a créé des œuvres inspirées du constructivisme, du suprématisme. Il a aussi créé des œuvres très graphiques dans les années 30. Et c'est petit à petit qu'il est allé vers l'abstraction totale à partir de la toute fin des années 40 et début des années 50.
Alors, s'il fallait raconter son histoire, vous qui le faites si bien dans ce livre, d'ailleurs c'est une nouvelle collection, il faut le dire, ça c'est de l'art. Et elle est destinée à ceux qui n'ont pas connu les années 70, c'est les années Vasarely. Et là, le premier livre de cette série est consacré à Victor Vasarely. On parle de l'op art, par exemple, oui. L'optique art.
Oui.
Alors, inventé Vasarely.
Oui, c'est un terme qui s'est popularisé dans les années 60, notamment suite à une grande exposition qui s'appelait The Responsive Eye, qui a eu lieu à New York, au MoMA. On parle souvent en français, on utilise le terme cinétique, art cinétique. C'est à peu près la même chose. Voilà. C'est le terme op art s'est popularisé dans les années 60 parce qu'il collait à une tendance, il était plus à la mode. Et oui, on peut considérer que Vasarely est le père de l'art optique parce que avec ses œuvres dites cinétiques des années 50, il a amené vers cet intérêt de l'art qui vient troubler l'œil, en fait, qui fait travailler la perception de l'observateur aussi, et qui n'est pas juste représentatif, qui fait intervenir les spectateurs.
Alors, s'il fallait parler de sa formation, c'est-à-dire avant d'arriver aux années 50 et aux années 60, où il va vraiment développer l'art optique, Vasarely, il passe par où? Donc, il est né à Budapest.
Oui, alors, il suit des études, alors, très brièvement de médecine. Et il va se tourner vers les beaux-arts assez rapidement.
Mais c'est très intéressant de dire qu'il suit des études de médecine, qu'il a fait un peu médecine, parce que
oui,
la science sera très très présente dans sa carrière et dans son œuvre.
Tout à fait. Alors j'imagine que pour faire des études de médecine, il faut avoir des connaissances mathématiques assez pointues. Donc certainement que oui, comme on sait que les mathématiques ont nourri sa création artistique, certainement qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ses toutes jeunes années avant la médecine et en médecine.
Alors qu'est-ce qui se passe dans les années 20 pour qu'il laisse tomber la médecine?
Alors, c'est une question.
Qui s'intéresse à l'art.
Je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Toujours est-il qu'il va faire une école d'art allemande très connue.
Alors, il va être à l'école Mühli, qui suit en fait les principes d'éducation artistique du Bauhaus, donc qui est en Allemagne, mais lui, il fait ses études en Hongrie. Il va effectivement.
Alors, le Bauhaus, c'est tout à la fois cette école d'art allemande, mais c'est aussi un courant artistique.
Hein, exactement.
Qui a vraiment posé les bases de l'architecture moderne.
Oui, et qui a aussi posé les bases de ce rééquilibrage, en fait, entre disciplines artistiques. C'est-à-dire qui a voulu effacer les frontières. C'est-à-dire que les arts appliqués étaient tout aussi importants que la peinture, que l'architecture. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au Bauhaus, enfin au Mühli, il étudie tout autant les arts graphiques, la publicité, parce que ce ne sont pas considérés comme des sous-disciplines artistiques.
Il arrive à Paris en 1927, c'est-à-dire très jeune. Il a quoi? Il a 21 ans.
Oui, voilà. Tout jeune.
Il vient pour des raisons politiques ou il vient pour continuer sa formation artistique?
Je pense plus personnel et artistique que politique. C'est à Paris quand même un centre de l'avant-garde dans les années 20. Ça lui permet aussi de travailler parce qu'il vient à Paris pour être illustrateur publicitaire dans un premier temps. Il est graphiste et forcément les grandes agences publicitaires, les grandes campagnes, il peut travailler dessus de Paris. Il va travailler avec les agences Havas, qui sont quand même, par exemple, qui sont quand même des très grandes agences.
On connaît le Vasarely des années 70, hein, c'est-à-dire cette culture pop, nourrie par la science-fiction. On sait ce qu'il a fait aussi bien pour la culture musicale, hein, une pochette de disque pour David Bowie, Jean-Christophe Averty qui utilisait aussi son design pour ses émissions. Tout ça est très présent dans l'exposition Vasarely au centre Pompidou. D'ailleurs, c'est pas par hasard hein, que ce soit le centre Pompidou. Pompidou qui lui rend hommage parce que voilà le fameux portrait de Pompidou du centre qui porte son nom, c'est bien entendu une œuvre de Vasarely. Et pourtant on est accueilli par cette période qu'on connaît moins et qui est très très belle de Vasarely, c'est-à-dire on est accueilli par ce qu'il a fait dans les années 30, ces zèbres avec des formes déjà géométriques, jouant déjà avec l'illusion optique.
Tout à fait.
Alors, c'est quoi cette période de Vasarely où il mêle le figuratif d'un zèbre, par exemple, avec l'abstraction des réseaux ?
Mais c'est une période fondamentale, c'est indéniable. C'est vraiment la période qui va initier ce que l'on connaît de lui plus tardivement, parce que du figuratif, il va aller vers l'abstrait, parce que justement, en dessinant un zèbre, il va s'appuyer sur les lignes, il va se rendre compte que c'est la ligne qui attire son œil, c'est ce qui est important. Il y a une autre œuvre de lui aussi qui est très belle, moins joyeuse mais très belle, qui s'appelle Les Bagnards, où là aussi on a ce travail sur les lignes. Donc oui, c'est vraiment, d'ailleurs il le dit lui-même, hein, que ce sont les années fondatrices de son art des années 50-60, et c'est aussi une combinaison du graphisme justement de l'illustrateur publicitaire et de sa patte artistique qui va privilégier la ligne, la courbe, et finalement faire ressortir la forme plutôt que le dessin lui-même.
Ce sont des peintures, hein. il faut rappeler que ce sont des tableaux.
Bien sûr. Oui, on a toujours tendance à penser, même les œuvres plus tardives, à croire que c'est de l'art numérique, tellement ça paraît spatial. Mais non, c'est de la peinture, c'est de l'acrylique ou c'est de l'huile, mais ça reste de la peinture. Il y a de gestes artistiques quand même derrière.
Elle est Édouard Dujardin, vous avez donc consacré tout un livre à Victor Vasarely pour résumer un peu son parcours, son œuvre, ses influences. Alors justement, pour parler de cette période-là, la période des zèbres, il est influencé par quel mouvement, il a traversé quel mouvement artistique ?
Mais alors, le Bauhaus, évidemment. On peut aussi regarder vers le constructivisme, le suprématisme, donc Malevitch. Il vient quand même des pays de l'Est, donc il est nourri de cette avant-garde de l'Europe de l'Est, qui est quand même très très importante à l'époque. Je crois que c'est vraiment Malevitch ou L. Lissitzky qui sont ces artistes de la période constructiviste, mais aussi Paul Klee, que l'on connaît du Bauhaus, la forme, le trait, la rigueur aussi, la rigueur géométrique et la rigueur graphique.
Et le minimalisme qui est déjà présent là.
Oui, qui est présent. Et d'ailleurs, on peut aussi dire que c'est aussi un avant-gardiste du minimalisme, parce que le minimalisme, tel qu'on le connaît en tant que mouvement artistique, c'est un mouvement qui apparaît bien plus tardivement, vers les années 50-60, et lui-même, déjà, est un apôtre du minimalisme.
Il va être très vite reconnu. Alors, peut-être pas en tant qu'artiste, mais en tant que graphiste.
Oui, c'est il en vit très bien. C'est un métier il arrive même à se créer un atelier avec des employés. C'est un grand illustrateur publicitaire. Il délègue, il en vit. Et ce qui d'ailleurs, c'est une chance parce que grâce aux revenus que lui procure la publicité, il peut se consacrer à ses recherches artistiques.
À partir de quel moment il devient connu dans le monde entier, Vasarely ?
Je dirais dans le monde entier, j'aurais tendance à dire dans les années 60, il y a quand même l'exposition de 1955 qui s'appelle Le Mouvement, qui a lieu à la galerie de Denise René à Paris.
Et déjà, les gens ressortent avec le vertige.
Voilà, c'est vraiment l'exposition phare qui va poser la célébrité de Vasarely, peut-être en Europe, je ne sais pas encore vraiment à l'échelle internationale. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'elle s'intitule Le Mouvement, qu'elle travaille sur le mouvement, mais qu'il est le seul artiste dont l'œuvre n'est pas mobile ou mécanique. C'est le seul dont l'œuvre présentée est une œuvre dont le mouvement est créé par l'œil qui l'observe.
C'est la 3D sans que ce soit de la 3D, quoi.
Voilà, et c'est là vraiment l'op art qui se met en place à partir de là.
Comment cet art va évoluer ? Parce qu'on a l'impression que Vasarely va faire du Vasarely, mais qu'il sera le seul à le faire.
Oui, c'est vrai, c'est assez juste. Alors, on connaît d'autres artistes qui ont travaillé dans le mouvement Op Art, je pense à Bridget Riley, qui est une artiste américaine, mais c'est vrai qu'il est très marqué par son propre style, et ce qui est assez rare finalement, parce que quand on regarde les grands mouvements, on pense au Pop Art et tout, on retrouve quand même des influences communes entre artistes, et Vasarely, il fait du Vasarely, comme vous le dites, c'est son art.
Comment définir l'art de Vasarely, justement, avec vos mots à vous, Ailey Edwards Dujardin?
Je dirais optique, géométrique, ludique et démocratique.
Démocratique, pourquoi? Parce que pour tout le reste, on comprend.
Parce qu'il a, il a voulu partager son art. D'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que l'exposition s'appelle « Le partage des formes ». C'est qu'il a voulu que son art soit accessible, compréhensible, déjà, avant tout, que ce soit accessible, qu'on puisse le regarder et comprendre tout de suite, sans forcément connaître l'histoire derrière, la science, les maths. C'était pas très important. Je pense que l'important, c'est de pouvoir le percevoir avec facilité. Et aussi parce qu'il a, il a multiplié les représentations de ses œuvres, les affiches, les posters ou des objets, des jeux de société même. Donc,
avant le pop-art.
Voilà.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be off with you. This is ground control to Major Tom.
David Bowie, Space Oddity, avec bien sûr la fameuse pochette de Vasarely. Vasarely, le partage des formes, c'est une grande rétrospective organisée par le Centre Pompidou. Bon, on peut parler de cette pochette de disque, mais on peut aussi parler de la pochette de tous les livres de poche qui sortaient à peu près à cette époque-là.
Oui.
Il voulait absolument avoir la patte Vasarely, il était vraiment très à la mode. Il y a bien sûr le design, d'ailleurs dans l'exposition à Beaubourg, on peut même plonger dans quelques archives de la télévision française en noir et blanc avec et retrouver Michel Polnareff ou Gérard Manset dans des décors signés par Vasarely. La culture pop lui a rendu hommage, mais lui-même, est-ce qu'il venait de cette culture? Est-ce qu'il a été porté par la science-fiction, par des lectures aussi? Elle est Édouard Sédujardin.
Je ne pense pas. Je pense que ce qui l'intéressait, c'était l'outil scientifique. Après, évidemment, dans les années 60, on est en plein dans cette période de conquête spatiale, donc je pense que ça fascine absolument tout le monde. Et lui, de son intérêt pour la science, va se tourner aussi vers ça. Et puis, quand il crée ses œuvres, on y voit des formes de planètes ou d'univers, de galaxies. Il y a quelque chose aussi dans sa manière qui a un côté un peu spatial.
On voit surtout le mouvement, le gonflement des formes.
Oui, tout à fait.
Et ça, il l'obtenait comment?
Les illusions d'optique,
ouais.
C'est votre œil en fait qui voit ça. Et lui, il jouait par lui, c'est un jeu de formes qui va diminuer, de couleurs, d'ombrage. Mais c'est votre œil en fait qui fait tout ce travail-là.
Et dans votre livre, je rappelle, Victor Vasarely, un artiste à redécouvrir en 40 notices, vous dites que les lieux ont beaucoup compté pour lui. Il y a eu une période, Belle-Île par exemple.
Oui, Belle-Île est sa première période abstraite. C'est vraiment, c'est en 47, c'est à ce moment-là qu'il va faire de l'abstraction et qu'il se débarrasse complètement du figuratif. Et il va en vacances à Belle-Île, c'est tout à fait anecdotique. Il va observer des galets sur la plage et ça va lui inspirer ses formes rondes et ses ellipses en fait sur lesquelles il va travailler à partir de ce moment-là.
Des années 60 jusqu'à la fin des années 70, on peut dire qu'il est omniprésent, Victor Vassarelli.
Totalement.
Dans la publicité, pour des marques de voitures, on l'a dit, pour tout ce qui est culture pop. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait que, au début des années 80, il était devenu subitement ringard pour employer un mot qui, à l'époque, était encore utilisable?
Oui, je pense qu'avoir, le fait d'avoir été trop à la mode, la ringardiser, en fait, il colle tellement à une époque. Et en plus, comme je disais, cette époque spatiale, donc ce space age, très années 60, très marqué.
Très optimiste.
Oui.
Et parce qu'on n'a pas parlé de la couleur, mais on peut aussi parler de la couleur.
Bien sûr, et je pense qu'il a tellement marqué, tellement été connecté à cette période-là, que forcément dans les années 80, quand on est passé à autre chose, on a voulu aussi se débarrasser de cette esthétique, et donc malheureusement Vassarelli a fait partie de cette esthétique.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces années-là, ces dernières années?
Il a continué à peindre, il a continué à développer ses œuvres toujours avec cette même patte. Et ce qui est, d'ailleurs, j'allais dire, c'est ironique finalement que dans les années 80, il est perdu de sa popularité parce que...
C'est là où il a été rattrapé un peu par le progrès au moment où on y arrive.
C'est ça. On est à une période où l'esthétique des ordinateurs, le pixel, commence à se développer. On est fasciné par ça. Et lui, son art répondait à ça. Et finalement, la connexion ne s'est pas faite entre son art et cette époque qui mettait en avant l'art numérique.
Qu'est-ce qui l'intéressait le plus, Victor Vassarelli, c'est-à-dire marquer un mouvement typiquement artistique? Mélanger l'art et la science, sa passion c'était aussi l'architecture et comment son art peut participer à un renouvellement de l'architecture.
Oui, je pense qu'au-delà même de l'architecture, je pense que c'est la ville, je pense qu'il voulait faire partie du paysage urbain et c'est pour ça aussi que j'ai utilisé le terme démocratique, c'est qu'il avait envie que son art soit visible par tous, pour tous. Et ça, il y avait une forme d'utopie aussi derrière. D'ailleurs, il a voulu, un peu à la manière de Le Corbusier avec sa cité radieuse, Vassarelli voulait porter le projet d'une cité polychrome du bonheur. Donc, il y avait une utopie comme ça aussi de redessiner le paysage urbain avec de l'art, avec de la couleur et que ce soit accessible à tout le monde.
Avec des rêveries cosmiques, oui. Pour reprendre un des intitulés de cette grande rétrospective Vassarelli au Centre Pompidou jusqu'au 6 mai, il y a effectivement cette appellation de pop abstraction qui lui va très bien et toute cette période où il va vers l'architecture, est-ce que vous pensez, Édouard Dujardin, que c'est ça sa meilleure période?
Sa meilleure peut-être pas, mais je pense la plus épanouissante pour lui.
Ouais.
Je crois que c'est là qu'il a le plus fait ce qu'il avait envie de faire. Il a commencé à l'université de Caracas, au Venezuela, et quand il en est arrivé à faire la façade d'Hertel, ou le hall de la gare Montparnasse, où il y a même la patinoire de Grenoble, là, voilà, c'est son œuvre, elle prend un format monumental, surtout. C'est-à-dire que là, on sort de la toile, et pourtant, il avait des toiles aussi importantes, mais là, on est carrément dans le monumental.
Voilà, c'est tout ce qui manque à la rétrospective de Beaubourg, justement, mais on peut les trouver quelques que par Aix-en-Provence, dans la fondation Vassarelli.
Oui, parce que la façade RTL a été démontée et elle a été envoyée à la fondation Vassarelli, par exemple. Mais à la gare Montparnasse, vous pouvez aller dans le hall et voir, si vous levez la tête, vous verrez du Vassarelli.
Bon, et aujourd'hui, quel regard on peut porter sur ce qu'a fait Vassarelli?
Mais je pense que l'exposition comme le livre sont intéressants parce qu'il nous ramène à ses premières œuvres aussi et ouais. Ça change complètement notre regard sur son œuvre. Et on sort justement de cette appellation un peu à ringarde, space age, psychédélique, un peu facile.
Ou artiste récupéré par la publicité, on a entendu ça.
Ouais. Oui, il a été beaucoup décrié aussi parce qu'il avait trop, il y avait trop de posters Vassarelli, trop de mini-jupes imprimées au parc. Donc c'est vrai que cette surdémocratisation de sa patte artistique lui a un peu a nuit à sa valeur artistique. Mais là encore, lui, il s'en fichait de ça. Il n'était pas du tout dans le fantasme de l'artiste maudit ou de l'élite artistique. Lui, il était ravi que tout le monde puisse avoir du Vasarely, que ce soit signé de lui ou pas d'ailleurs.
Et ce côté industriel presque de son art, il l'a assumé parce que il va le faire genre 10 ans avant Andy Warhol et le pop art.
Totalement, il s'est totalement assumé et voulu. Et d'ailleurs, ses œuvres des années 60 sont formées à partir de ce qu'il appelle une unité plastique, pour résumer très brièvement, une sorte de vocabulaire qui va mettre en place un alphabet de formes et de couleurs qui peuvent être qui permettent des combinaisons à l'infini. Et c'est une forme d'industrialisation de sa propre esthétique, en fait, parce que à partir de quelques couleurs, de quelques formes, il va créer des tableaux à l'infini. Oui, et c'est totalement souhaité. Enfin, il l'assume.
Et vous avez raison de dire à Hélène Edwards Dujardin que aujourd'hui, quand on voit une œuvre de Vasarely, on se pose la question si c'est passé par l'ordinateur ou pas.
C'est ça. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce que c'est là où on est impressionné finalement après coup, et on sort de cette étiquette ringarde, ou parce qu'on se dit ah oui, quand même, c'est tout ça, c'est de la peinture. Il y a quand même un geste artistique derrière. C'est pas fait à l'ordinateur.
Oui, mais il y a le côté prémonitoire. On n'a jamais utilisé le terme de rétrofuturisme pour Vasarely.
Non, c'est vrai, ni de prémonitoire, comme vous le dites. C'est vrai que c'est intéressant qu'il ait anticipé cette esthétique-là. C'est vrai que c'est très intéressant.
Et vous-même, comment êtes-vous entrée dans l'œuvre de Vasarely, Hélène Edwards Dujardin?
Bon, moi, j'ai fait beaucoup de recherches, évidemment, mais aussi j'ai laissé parler mon imagination. Je pense que face à ce type d'œuvre, il ne faut pas hésiter à...
Non mais je vous pose la question parce que vous êtes jeune, hein, et donc vous n'avez pas connu vous n'avez pas connu l'âge d'or où Vasarely était
un peu
partout.
Non, mais c'est quand même ancré quelque part, malgré tout. Moi, je suis née au tout début des années 80 et j'ai quand même, je sais pas, je l'ai pas connu, mais j'ai toujours, quand je vois cette époque-là, les années 60-70, je vois du Vasarely. D'ailleurs, quand je disais que j'étais en train d'écrire un livre sur Vasarely, la plupart de mes amis disaient « Ah, je vois pas du tout qui c'est ». Je montrais une image sur Internet, on me disait « Ah oui, c'est celui qui faisait des trucs un peu psychédéliques ». Donc il y a quand même si les gens ne connaissent pas, et d'ailleurs c'est pour ça que je parle du plus populaire des artistes méconnus, les gens connaissent son œuvre. Ils savent plus d'où, ils savent pas pourquoi, mais c'est une esthétique qui est quand même très prégnante.
Et alors, pour reformuler ma question autrement, quelle est la première œuvre de Vasarely qui vous a marqué, Hélène Edwards Dujardin?
Je pense que ce sont la série des CTA, et d'ailleurs la pochette de David Bowie s'est inspirée d'une œuvre CTA. Je pense que c'est celle-ci qui me marque le plus, parce que au-delà de la forme géométrique, il y a aussi une forme de scintillement qui est très intéressant, et là on est vraiment dans une esthétique cosmique.
Vasarely, le partage des formes, c'est au Centre Pompidou, Beaubourg. Si vous êtes de passage à Paris ou si vous habitez Paris, sachez que c'est jusqu'au 6 mai, que c'est vraiment une exposition rétrospective à ne pas rater. Et puis une nouvelle collection aux éditions du Chêne, ça c'est de l'art, et dans le but est de faire connaître effectivement des artistes, et ben ça commence par votre livre, Hélène Edwards Dujardin, Victor Vasarely, un artiste à redécouvrir en 40 notices. Merci d'être passé ce matin.
Merci à vous.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le Journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum L'année vue par les savoirs. Participation, représentation, information, hashtag le nouvel âge de la politique, algorithmes et démocratie, fake news, concertation, philosophie des réseaux sociaux. Quatre tables rondes animées par les producteurs de France Culture pour comprendre le monde d'aujourd'hui. En partenariat avec La Croix, l'Histoire, Alternatives économiques et avec le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris. Venez nombreux, mardi 19 février dès 9h30 dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Plus d'infos, franceculture.fr. Entrée gratuite, réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr.
Prenons les chemins de la philosophie, chaque jour sur France Culture à 10h, Adèle Van Rett.
Des entrailles dégoulinantes et des charognes puantes représentées en peinture. Du sang visqueux et qui gicle sur la caméra. Du mode d'existence des zombies en littérature et dans les séries jusqu'à l'option ultra-gore activable dans les jeux vidéo, cette semaine, nous convions Aristote, Platon, Baudelaire et Canguilhem pour vous proposer une philosophie du gore.
Les chemins de la philosophie, de lundi à vendredi à 10h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Haïti est encore plongé dans l'incertitude et la tension ce matin. Des barricades paralysent l'activité dans les principales villes face à un pouvoir exécutif qui reste muet. Nous irons sur place dans un instant. Nous irons aussi en Syrie où des frappes de la coalition hier ont tué 16 civils. Pendant ce temps, dans les camps kurdes, des familles de djihadistes attendent qu'on tranche sur leur sort. À la une ce matin aussi l'affaire Benalla, alors que le plus proche conseiller d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien, démissionne. On en sait plus sur les contrats passés entre Alexandre Benalla et des Russes. Et puis, quelle place ont les indépendantistes dans le paysage politique espagnol un an et demi après le référendum ? Aujourd'hui, 12 Catalans indépendantistes sont jugés pour sédition. Et d'abord donc, partons en Haïti, paralysé par des manifestations violentes à répétition depuis 5 jours maintenant. L'opposition réclame le départ immédiat du président Jovenel Moïse. Il est décrié par une population fatiguée des promesses non tenues et d'une corruption généralisée. Les jeunes sont notamment très mobilisés, Amélie Baron.
Les jeunes du bidonville de Cité Soleil sont à bout et au 5e jour de manifestation à travers le pays, ils ont décidé eux aussi d'exprimer leur colère contre le président Jovenel Moïse qui n'a pas tenu ses promesses, comme en témoigne ce manifestant qui, comme la grande majorité, a défilé le visage masqué.
On est resté calme et Jovenel nous a abandonnés. Quand on a faim, ils savent ce qu'on peut faire. Nous, on veut juste du travail, on n'en peut plus de souffrir, on va tout raser.
Face à ces centaines de jeunes très agressifs, la police a fait un large usage de lacrymogène et a aussi tiré en l'air à balles réelles. Vilma est fatiguée d'une police et d'une justice à 2 vitesses.
Pourquoi la police est-elle toujours sur le dos de la classe moyenne et des pauvres ? Pourquoi ne peuvent-ils pas arrêter tous ceux qui ont volé l'argent des aides au développement ? Nous, de Cité Soleil, on est dans les rues car on veut que Jovenel parte du pouvoir. S'il ne part pas dans l'après-midi, on va s'approcher des maisons des sénateurs, des députés, des maires et tout ça va finir.
À cette colère populaire de voir certains s'enrichir aux dépens de la majorité pauvre, le président ne répond rien. Un mutisme qui plonge toujours davantage le pays dans l'incertitude.
Amélie Baron, correspondante de RFI pour France Culture à Port-au-Prince. En Syrie, le groupe État islamique résiste. L'organisation djihadiste s'accroche à son ultime territoire à l'est du pays, à la frontière avec l'Irak. Plusieurs raids de la coalition internationale hier y ont encore été menés. Ils ont causé la mort de 16 civils. Mais beaucoup de civils ont aussi fui cette zone. Des familles de combattants de Daesh ont ainsi été conduites dans des camps contrôlés par les Kurdes, 355 familles au total, dont des Françaises, Étienne Monin.
Dans ce groupe d'étrangères, on compte donc des Allemandes, des Ouzbeks, des Russes et notamment des Françaises. Beaucoup d'entre elles sont sorties avec leur mari. Elles n'ont pas de nouvelles d'eux et pas de traces non plus d'un éventuel rapatriement en France, dit Nadim Houri, qui enquête sur la situation de ces camps pour le programme de lutte antiterroriste de Human Rights Watch.
Les Françaises dans les camps ont entendu, parce qu'il y a parfois elles ont des téléphones cachés, etc., ou parce qu'elles entendent parfois les médias, qu'effectivement la position de la France est en train d'évoluer. Mais par contre, concrètement sur le terrain, il n'y a eu aucun changement. Elles n'ont reçu aucune visite pour recenser le nombre de Françaises ou d'enfants français, etc. Et je dois dire que durant notre visite, on a rencontré beaucoup d'officiels locaux de très haut niveau, même au niveau militaire, sécuritaire. Et quand on leur demande est-ce qu'il y a des préparatifs, quelque chose de concret, eux, ils nous disent qu'ils sont en train d'avoir des nouvelles par les médias comme nous autres.
Ces femmes attendent maintenant de connaître leur sort. Elles sont accompagnées par un nombre important d'enfants, souvent très jeunes, parfois âgés de quelques mois.
Étienne Monin, envoyé spécial de France Culture à l'est de la Syrie. Les parlementaires américains ont trouvé un accord de principe pour éviter un nouveau shutdown. Comprenez, une paralysie partielle des administrations américaines. Aucun détail pour le moment n'a été donné sur le contenu de cet accord. Il doit encore être approuvé par la Maison Blanche. Hier soir, Donald Trump a encore vanté les mérites d'un mur entre le Mexique et les États-Unis. L'Élysée confirme. Ismaël Emelien, le conseiller spécial d'Emmanuel Macron, quitte l'Élysée. Son départ, officiellement convenu avec le président de la République, sera effectif aux alentours du mois de mars, à la fin du grand débat national. Ismaël Emelien rejette tout lien avec l'affaire Benalla, affaire dans laquelle il est mis en cause, étant un proche de l'ancien collaborateur. Et cette affaire Benalla, justement, est une fois encore étayée par de nouvelles informations dévoilées par Mediapart. Les derniers éléments tendent à prouver qu'Alexandre Benalla a joué un rôle déterminant dans la conclusion de contrats de sécurité, des contrats passés avec deux oligarques russes, notamment quand il était encore employé par l'Élysée. C'est ce qu'a expliqué hier Fabrice Arfi, co-responsable du service enquête chez Mediapart.
Pendant qu'il travaillait à l'Élysée, que par fonction il était dépositaire des secrets de la présidence de la République, qu'il était habilité au secret défense, il a négocié de bout en bout un contrat sécuritaire de plusieurs centaines de milliers d'euros au profit d'un oligarque russe proche de Vladimir Poutine et soupçonné par plusieurs magistrats européens d'être lié à la mafia. C'est un ancien policier qui est le patron d'une société de sécurité qui a travaillé sur le contrat russe qui confirme publiquement dans les colonnes de Mediapart que Alexandre Benalla a été le chef d'orchestre du début à la fin de ce contrat. Dès qu'il y a eu les révélations du Monde sur les violences du 1er mai, comme le montraient nos enregistrements diffusés il y a une dizaine de jours, Alexandre Benalla a paniqué quant au fait que les policiers pouvaient découvrir le fameux contrat russe qui pose des questions gigantesques, hein, au cœur de l'État, de possibles compromissions. Aujourd'hui, il y a une enquête ouverte par la justice pour corruption. Donc ce même Benalla a changé les montages financiers du contrat russe. C'est lui qui active en sous-main une société française qui a récupéré pour près d'1 million d'euros ce contrat avec l'oligarque Iskander Mahmoudov, mais a contracté en décembre 2018 un nouveau contrat avec un autre oligarque russe, également réputé très proche du Kremlin. Au total, les contrats russes négociés par Alexandre Benalla s'élèvent à plus de 2 millions d'euros.
Fabrice Arfi de Mediapart avec Rosalie Lafarge. Les actes antisémites sont en hausse en France. Le ministre de l'Intérieur évoque plus 74% en 2018 par rapport à 2017. Ces derniers jours d'ailleurs à Paris, un restaurant a été dégradé avec le mot « juif »,« Juden », écrit en lettres jaunes. Le visage de Simone Veil a également été barré d'une croix gammée. Et puis hier matin, c'est l'arbre planté en la mémoire du jeune juif Ilan Halimi qui a été scié dans l'Essonne. Nous reviendrons sur ce chiffre, plus 74% en 2018 d'actes antisémites. Nous y reviendrons dans le journal de 7h sur France Culture. Avant cela, cette nouvelle fête organisée au château de Versailles par le groupe Renault et qui pose question. C'est le caractère privé de l'événement qui interroge, car il a eu lieu le jour de l'anniversaire de Carlos Ghosn, désormais ancien PDG de Renault, incarcéré toujours au Japon. Après son mariage organisé dans ce même château de Versailles, qui a un contrat de mécénat avec Renault, eh bien, on est toujours en plein mélange des genres, Isabelle Raymond.
La fête se déroule le 9 mars 2014, le jour des 60 ans de Carlos Ghosn. Le château de Versailles confirme avoir signé un contrat de location d'espace pour ce soir-là avec l'alliance Renault-Nissan pour un montant de 160 000 euros. Il comprend le salon d'Hercule et la galerie des batailles. C'est là que les invités vont déguster un repas concocté par le grand chef Alain Ducasse. Une soirée somptueuse racontée par le journal libanais L'Orient le Jour. Personnel en costume d'époque, feux d'artifice tirés depuis les jardins et invités appartenant au Gotha libanais, dont le couturier Elissab. Le carton d'invitation indique pourtant que Carlos Ghosn, en tant que PDG, vise par ce dîner à remercier, je cite, les partenaires de l'alliance Renault-Nissan. L'alliance qui célébrait bien ses 15 ans quelques jours plus tard. Mais selon une source bien informée, mise à part deux personnes, aucun de ses membres ne se souvient avoir été invité. Cette soirée au total, selon une source proche, a coûté 630 000 euros. payé par RNBV, la holding néerlandaise qui chapeaute l'alliance Renault-Nissan.
Isabelle Raymond. 12 indépendantistes sont devant la justice espagnole à Madrid aujourd'hui, accusés d'avoir organisé un référendum d'autodétermination en Catalogne. C'était en octobre 2017. Depuis, les socialistes sont arrivés au pouvoir, mais les relations entre gouvernement et indépendantistes ne sont encore pas au beau fixe. Explication de Marie-Hélène Ballestero.
C'est le procès le plus attendu et il arrive en pleine tourmente politique, affirmait hier le quotidien El País. Car rien ne va plus entre le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez et les indépendantistes catalans. Après des mois de rapprochement et de discussions, le gouvernement central ayant même accepté la présence d'un rapporteur indépendant dans le cadre d'une future table ronde, ce qui a provoqué un tollé chez les partis conservateurs et même chez certains socialistes, et bien malgré tous ces efforts, le dialogue est rompu. Le gouvernement Sanchez l'a confirmé vendredi dernier. Selon la numéro 2 de l'exécutif, Carmen Calvo, les indépendantistes ont rejeté la dernière proposition de dialogue en exigeant par ailleurs l'acceptation d'un référendum d'autodétermination. Une demande qui ne sera jamais acceptée par un gouvernement comme le nôtre, a souligné Carmen Calvo. Le chef de l'exécutif Pedro Sanchez est allé plus loin hier en postant un message sur son compte Twitter. L'indépendance de la Catalogne n'est pas constitutionnelle et la plupart des Catalans n'en veulent pas. D'après lui, la majorité soutient le dialogue et la Constitution. À cette heure-ci, le dialogue entre Madrid et la Catalogne semble bel et bien rompu, ce qui va faire augmenter encore plus la tension et la crispation. Par ailleurs, sans l'appui des indépendantistes, le gouvernement socialiste ne pourra pas faire adopter son budget au Parlement, ce qui veut dire que Pedro Sanchez va sans doute devoir convoquer des élections législatives anticipées. On devrait en savoir plus avant la fin de la semaine.
La météo, selon Météo France, ce mardi, c'est assez simple. Le temps sera calme et ensoleillé. 2 degrés ce matin à Besançon, 6 à Lyon et à Paris, 10 degrés à Nice. À 6h40, nous accueillons Jacques Meunier. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Pour votre journal des idées, le mouvement des Gilets jaunes a suscité de nombreuses comparaisons historiques. Il a lui-même revendiqué l'héritage révolutionnaire ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est l'occasion, Jacques, de revenir sur la notion d'histoire populaire.
Oui, dans un ouvrage qui vient de paraître au Seuil sous le titre « Le fond de l'air est jaune » et qui rassemble des articles publiés tout au long de cette crise, Michel Zancarini-Fournel commente l'une des phrases prononcées par les manifestants. On est en train de faire l'histoire. Pour l'historienne, le champ d'expérience ouvert par le mouvement, incarné dans le présent par certaines pratiques exprimant d'autres possibles, peut ouvrir à un horizon d'attente. Mais s'il faut être prudent avec les comparaisons historiques et prendre en compte les contextes différents, cette tension dynamique entre champ d'expérience, le passé tel qu'il est perçu depuis le présent, et horizon d'attente, le futur tel qu'il est envisagé à partir du présent, définit parfaitement les usages qu'on peut faire de l'histoire dans un registre militant et à l'appui d'un répertoire d'actions qui emprunte à des modèles éprouvés ainsi qu'à des représentations héritées. C'est ainsi que la Ligue spartakiste, qui enclencha la révolution allemande de 1918, se réclamait symboliquement du nom de Spartacus, le meneur de la plus grande révolte d'esclaves de la République romaine. D'où l'intérêt de l'histoire populaire qui dégage l'horizon du fatras des batailles impérialistes et des luttes dynastique pour éclairer le terrain modeste et collectif, souvent convulsif, de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, les subalternes comme les désignait Gramsci. Dans son dernier livre, publié à la découverte, « Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France », Michel Zancarini-Fournel a adopté leur point de vue. Ceux qui subissent une domination à la fois culturelle, sociale, économique et politique ont leur mot à dire et ils résonnent dans l'histoire, pour peu qu'on l'entende. C'est pourquoi son livre débute en 1685, l'année où est édicté le Code Noir, mais aussi celle de l'abrogation de l'Édit de Nantes, l'histoire de l'esclavage avec celle de la discrimination des protestants. Plus tard, les révolutions et la mémoire qu'elles engendrent formeront un esprit de résistance qui témoigne de la pérennité d'une opposition larvée dans les milieux populaires, écrit-elle. Les principes révolutionnaires, le droit naturel, la liberté et l'égalité, ont été incorporés par des subalternes qui ont la volonté de préserver et de transmettre ses acquis. Dans Le Peuple, Michelet affirme que pour la nation, c'est comme en géologie, la chaleur est en bas. L'idée anime le courant qu'on appelle l'histoire par en bas. Edward Thompson, auteur notamment de la formation de la classe ouvrière anglaise, en a été l'un des pionniers dans les années 60, et plus récemment Howard Zinn avec son histoire populaire des États-Unis. Marcus Rediker, historien de la traite négrière et de la piraterie, a illustré dans les Hors-la-loi de l'Atlantique le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire des pauvres ou des classes laborieuses, mais de leur capacité d'agir et d'affecter le cours de l'histoire. Il montre l'importance des grands voiliers dans l'essor du capitalisme, équivalente à celle du travail salarié et de la manufacture, notamment par la traite transatlantique, ces bâtiments constituant de véritables laboratoires de la division du travail avec des règles de discipline extrêmement violentes, d'où les formes de résistance qui se sont développées. En anglais, le mot grève, strike, vient d'un terme qui désigne le fait d'abattre les voiles. La première grève s'est déroulée sur les docks de Londres en 1768. Les dures conditions de travail, avec des salaires très bas, une discipline brutale, poussaient les marins vers la piraterie où ils pouvaient pratiquer une forme inédite de démocratie en élisant leurs officiers et leurs capitaines, en soumettant les projets d'abordage à délibération et en divisant le butin de manière égalitaire. C'est cela au moins autant que les atteintes à la propriété des marchands que les autorités françaises et britanniques combattaient. L'historien américain s'est employé à repérer l'écho de ces idées, portées sur les quais et les docks jusqu'à l'intérieur des terres, et leur impact essentiel dans le mouvement des Lumières, mais aussi parmi les travailleurs. Il rappelle que l'un des premiers opposants à l'esclavage, Benjamin Lay, était un marin. Mais l'écriture de l'histoire est également située historiquement. Auteur d'une histoire populaire de la France, Gérard Noiriel relève que l'histoire populaire des États-Unis d'Howard Zinn est écrite dans la foulée du triomphe du progressisme après mai 68, alors que la sienne vient au moment où il est en recul et où la crise du mouvement ouvrier a considérablement affaibli les luttes sociales au profit des conflits identitaires. Benjamin Caraco souligne sur le site nonfiction.fr que l'historien dépasse du coup le seul point de vue des dominés pour privilégier l'analyse de la domination entendue comme l'ensemble des relations de pouvoir qui lient les hommes entre eux. Vous écoutez France Culture, il est 6h45 et c'est le retour de Xavier Martinet pour les enjeux internationaux. Bonjour Xavier.
Bonjour Jacques Minier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, rapatrier les djihadistes français.
C'est ça, avec un grand point d'interrogation, puisque Donald Trump souffle le chaud et le froid quant au maintien des troupes américaines en Syrie. Mais Paris semble se préparer à un rapatriement en France des combattants de l'État islamique arrêtés sur place en Syrie par les Kurdes. Alors il y a 2 ans, on craignait le retour de revenants. Désormais, les djihadistes seraient-ils les encombrants politiques ou diplomatiques? On en parle avec vous, Wassim Nasr, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes journaliste pour France 24, auteur en 2016 d'État islamique, le fait accompli. Alors, depuis ces derniers jours, il y a beaucoup de déclarations officielles françaises, certaines assez évasives ou contradictoires. Il faut judiciariser le processus, disait le ministre de l'Intérieur il y a 2 semaines exactement. Est-ce que vous pouvez avoir une certitude, même sur le chiffre de 130 personnes liées à l'État islamique française arrêtées en Syrie?
Maintenant, on sait en tout cas par rapport à ces 130 qu'il y a des hommes, des femmes et des enfants, et une majorité d'enfants, telle qu'elle l'a dit la ministre de la Justice, Sabine Loubet, mais il faut savoir aussi que c'est évolutif, parce que rien qu'hier, il y a eu au moins 2 Français ou Françaises qui ont été arrêtés aussi par les Kurdes dans les faubourgs de Baghouz, donc ce dernier-là tenu par l'État islamique. Ça, c'est en parlant des Français détenus par les Kurdes. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des Français qui sont aujourd'hui détenus ou sous surveillance par les rebelles syriens dans le nord syrien, dans la région de Jarablus. Et il y a d'autres Français aussi qui sont libres de leur action dans le rang de factions djihadistes ou islamistes à Idlib, et des djihadistes français toujours actifs dans le rang de l'État islamique, dans cette petite poche de Baghouz qui ne dépasse pas aujourd'hui les 2-3 km².
Alors justement, un chiffre évolutif, vous avez dit, je crois qu'ils étaient 10 à 20 cités par Benjamin Griveaux au début de l'année. En quoi c'est lié à la situation précisément à Baghouz en ce moment, cet assaut final ou présenté comme tel par les FDS sur cet ultime réduit de l'État islamique dans le sud syrien?
En fait, parce que c'est la dernière zone urbaines ou habitées, hein, parce que c'est des villages tenus par les djihadistes, que ce soit en Syrie ou en Irak, et que du moment où on n'est plus dans une zone habitée ou urbaine, c'est très dur pour les djihadistes occidentaux et leurs familles de survivre et de subvenir à leurs besoins. Parce que il y a une partie des djihadistes qui ont réussi à sortir de Maghouz il y a à peu près un mois et demi en cassant les lignes de l'armée syrienne, donc de l'autre côté de l'Euphrate, en passant dans le désert qu'on appelle la Badia du Sham, où ils ont encore plusieurs milliers de kilomètres carrés sous leur contrôle, mais c'est une zone désertique et de grottes. Il y a l'équivalent du côté d'Anbar, donc des Irakiens, et du côté de Houja, c'est une zone montagneuse, en Irak. Mais c'est des zones où les djihadistes locaux, donc syriens, irakiens, voire arabes, peuvent se fondre. Mais les djihadistes occidentaux, avec leur famille, deviennent un poids pour le groupe, au même titre que les djihadistes africains, asiatiques, donc ils ne peuvent pas se fondre dans la population, sans parler encore une fois des conditions très rudes de survie dans ces zones-là pour les femmes et les enfants, ce qui explique le nombre important de redditions qu'on a pu voir ces dernières semaines.
Oui, et donc pour résumer ce qui se passe depuis quelques semaines, quelques jours, c'est qu'au fur et à mesure que les FDS, Forces démocratiques syriennes, avancent, donc ils font une partie de prisonniers. Il y a eu ce chiffre en octobre 2018, assez impressionnant, de 900 combattants de l'État islamique, 400 à 500 femmes, plus de 1000 enfants originaires de 44 pays cités par le chef des relations étrangères des FDS. Est-ce qu'on peut le confirmer aussi ?
Ben ça, c'est au minimum. Hein. Ça veut dire, parce qu'il faut savoir que dans les rangs de l'UI, il y a plus de 80 nationalités. Et qu'il y a des gens qui ont rejoint l'UI dès 2013, quand c'était encore l'État islamique en Irak et au Levant, et qui depuis ont fait des enfants, des femmes qui se sont mariées plusieurs fois, et donc et parmi elles des Français, bien sûr. Donc ce chiffre me paraît tout à fait plausible, c'est-à-dire c'est le minimum, je pense. Là, on pense aujourd'hui approximativement au moins 1100, 1200.
Et pour bien comprendre la position de la France, ou plutôt l'implication des djihadistes français là-dedans, je me rappelle plus le chiffre exactement, mais je crois qu'à l'époque, on disait qu'il y avait eu 700 départs français. C'est le plus gros contingent, toujours, de prisonniers chez les FDS aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le dire ?
Ah, ça, je sais pas. Entre leurs mains, si c'est vraiment encore les Français les plus nombreux, parce que en même temps, ils ont aussi mis la main sur beaucoup d'autres nationalités, hein, des Tunisiens, des Russes, qui ont des Russes, donc qui ont des passeports russes, mais qui sont du Caucase ou d'autres républiques qui dépendent de la Fédération russe. Donc je sais pas exactement si vraiment les Français sont toujours au contingent, mais ce qui est sûr, c'est que les autres pays qui ont des gros contingents récupèrent leurs ressortissants. Et il n'y a que les Français et les Européens qui rechignent à les récupérer, donc qui les laissent là-bas. Donc c'est peut-être plausible, oui, que les Français aujourd'hui, avec les francophones, les Belges, soient les plus nombreux. Ouais. Sachant que les Russes ont rapatrié leurs gens, ils ont même rapatrié des ressortissants des républiques d'Asie centrale, donc qui n'étaient pas obligés de les récupérer pour les rendre à leur république.
Et les Russes ont encore rapatrié 27 enfants, ont-ils dit ce week-end. Ce qui est intéressant justement là-dessus, c'est d'observer l'évolution de la position française, puisque en septembre dernier, il était question de se préparer au retour d'enfants. Il y en avait 400 en Syrie, enfin 120 enfants emprisonnés en Syrie. Puis on est passé à cette question du retour des djihadistes eux-mêmes emprisonnés, donc passibles de procès. Qu'est-ce qui a mené à cette inflexion ? Est-ce que c'est vraiment l'annonce du retrait syrien, ou est-ce que c'est une prise en compte plus interne ?
Non, c'est l'annonce...
Du retrait américain, pardon.
Oui, bien sûr, on s'est compris. C'est l'annonce de Trump, de retrait. Mais j'ai envie de dire que ça fait plus d'un an qu'on est quelques-uns à prévenir que la situation géopolitique sur le terrain dans le Syrien est tout à fait instable et imprévisible, et il n'y a aucune visibilité sur 6 mois, et on le voit avec les différentes annonces d'intervention turque, de retrait américain, etc., que la situation est très évolutive et volatile. Donc ça aurait dû être pris en compte par les responsables politiques dès que le premier ressortissant français a été arrêté, hein, que ce soit par les rebelles, les codes, etc., pour trouver des solutions de rapatriement et de prise en charge ici même. Donc ça n'a pas été fait. parce que les hommes politiques, ils ont craint l'opinion publique qui est, il faut le dire, largement majoritairement contre ce retour. Ils n'ont pas pris le temps d'expliquer à l'opinion publique pourquoi ce retour serait la solution la meilleure solution, en tout cas, pas en termes de, sans parler de droits de l'homme, mais en termes de sécurité. Donc aujourd'hui, le retrait américain met les politiques français et européens, d'ailleurs, devant le fait accompli, parce que les Allemands, les Britanniques sont obligés de suivre d'ailleurs, parce que du moment où l'armée américaine se retire, la position du PKK kurde devient sujette à des évolutions négatives,
ouais.
Et les Français ont peur de l'éventualité que donc, les PG rendent les ressortissants français ou donnent les ressortissants français à Damas quand il reviendra dans le giron de Damas. À ce moment-là, Damas l'utilise comme moyen de pression diplomatique, ce que les PG ne sont pas privés de faire, parce qu'il faut rappeler aussi que c'est les PG qui leur a donné une existence médiatique à ces ressortissants français occidentaux,
ouais.
En les exhibant dans ces médias, en laissant les journalistes avoir accès à eux, pour justement dire, voilà, je tiens vos djihadistes, donc aidez-moi à instaurer un système, aidez-moi diplomatiquement, ce que la France a fait, elle n'a pas rechigné à faire, mais du moment où les Américains se retirent, la France ne peut plus peser dans l'équation, elle ne peut pas rester sur place toute seule. Donc des solutions alternatives sont à trouver, et donc cette question du retour, même si dernière chose là-dessus, aujourd'hui on est en train de dire bon voilà, peut-être qu'il faut les faire juger en Irak. Il y a eu deux poissons pilotes, entre guillemets, j'ai envie de dire belges, qui ont été transférés en Irak, dont un dénoncé par Women's Rights Watch dans des conditions qui sont pas les meilleures pour des états de droit. Et donc même aujourd'hui, si on les laisse en Irak, c'est encore repousser le problème, mettre le problème sous le tapis, parce qu'on connaît le système judiciaire irakien, parce que s'ils sont condamnés à mort, on sera obligé d'intercéder pour empêcher les exécutions des peines, comme la ministre de Justice, Belloubet, l'a dit, concernant les ressortissants français, et qu'on sait qu'il y a des cases de prison de manière récurrente en Irak, et les djihadistes sont libérés par leurs collègues de manière assez périodique.
Et de ce point de vue-là, juste en un mot, est-ce qu'il est encore possible pour la justice française ou des justices européennes de pouvoir faire sous-traiter la judiciarisation des djihadistes désormais au Moyen-Orient?
Ben justement, ce n'est pas digne des démocraties occidentales de sous-traiter la justiciarisation de leurs propres ressortissants, de leurs propres problèmes, à des pays qui n'ont pas des systèmes judiciaires à même de traiter ce problème équitablement et qui poseraient problème par ailleurs. Parce que imaginons, aujourd'hui, un djihadiste occidental est jugé en Irak pour certains faits de terrorisme et il y a un questionnement autour de ce jugement ou de sa tenue, il ne peut pas être rejugé en Europe pour les mêmes faits. Donc, on est vraiment face à un problème existentiel, une vraie question aujourd'hui de prise en charge et de responsabilité des États européens par rapport à leurs ressortissants djihadistes, soit-il.
Eh bien, à suivre la guerre sans merci ou la justice sans garantie de rémission. On verra, mais merci pour vos explications aujourd'hui, Wassim Nasr, et puis bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des précautions simples peuvent être adoptées. En cas de fièvre supérieure à 38 degrés, courbature ou grande fatigue, restez si possible chez vous et évitez les contacts avec les personnes fragiles comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin traitant si nécessaire. Ne vous rendez pas aux urgences sans avis médical et contactez le 15 uniquement en cas d'urgence. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
À 6h57 sur France Culture, nous retrouvons les matins avec Guillaume Herner. Bonjour Guillaume.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à tous.
Alors après ce week-end, comment expliquer l'augmentation de ces actes antisémites?
Eh bien en comprenant ce que la haine antisémite signifie aujourd'hui, car l'antisémitisme a largement changé de sens entre les années 1930 et aujourd'hui. Au début du siècle, la haine du juif, c'est la haine de l'élément étranger, inassimilable. Les juifs sont alors un peuple paria, selon le mot du sociologue Max Weber, vivant nécessairement à l'intérieur et à l'extérieur des sociétés avec lesquelles ils doivent cohabiter. Lorsqu'il s'agit de comprendre l'antisémitisme des années 1930, on évoque le choc de l'entrée des juifs dans la modernité, autrement dit, la réaction à leur intégration progressive. Si l'on avait demandé d'ailleurs aux sociologues du début du XXe siècle où un massacre de juifs avait le plus de chances de se produire, ils auraient répondu sans hésiter en France ou en Russie, car les juifs allemands étaient sans conteste les plus assimilés. Mais justement, la spécificité de l'antisémitisme nazi, si l'on suit par exemple Anna Arendt, c'est d'invoquer l'assimilation en cours pour justifier l'extermination. D'où les premières mesures qui consistent à distinguer les juifs avec l'étoile jaune, à les rassembler. Le nazisme est une religion séculière reposant sur l'antisémitisme. Autrement dit, il propose aux Ariens un salut, comme dans une religion, par l'extermination des juifs, les juifs étant la cause de tout l'antisémitisme et donc la solution à tout. L'antisémitisme contemporain a un tout autre visage. Outre qu'il fait preuve d'une singulière lâcheté, s'en prend aux arbres en mémoire d'Ilan Halimi, Tagui est une représentation de Simone Veil, il vise un groupe qui, à ses yeux, incarne le système. L'antisémitisme, c'est quenéliser la quenelle, ce geste crétin inventé par Dieudonné qui imite un geste nazi sans l'assumer tout à fait. L'antisémitisme ne vise plus à protéger un système, mais à le dénoncer. Hitler prône l'antisémitisme pour défendre la société. Dieudonné prône l'antisémitisme pour en finir avec la société actuelle. Car les juifs en sont venus aujourd'hui à incarner le système. Ce n'est pas nouveau, depuis des décennies, l'assimilation des juifs à l'argent, au cosmopolitisme, est à la base même de l'antisémitisme. Ce qui est nouveau en revanche, c'est que l'antisémitisme est devenu une anti-religion séculière. Ce n'est plus pour défendre la société que l'on déteste les juifs, c'est parce que l'on déteste la société que l'on déteste les juifs.